Et voici d'ailleurs le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À l'heure des premiers départs en vacances, le conflit social sur la réforme des retraites persiste. Une réunion multilatérale s'est tenue hier à Matignon avec les organisations syndicales et patronales. Dernière discussion avant janvier. La situation est tout de même moins crispée entre le chef du gouvernement et les partenaires sociaux. Édouard Philippe a tenté de se montrer souple et ferme à la fois, Rosalie Lafarge.
Le Premier ministre l'assure, ces deux journées de réunion à Matignon n'ont pas servi à rien.
Les discussions de ces derniers jours ont permis des avancées concrètes.
Sur la pénibilité, la gestion des fins de carrière, le minimum des pensions, la progressivité de la mise en œuvre de la réforme à la SNCF, la situation à la RATP, sur tout cela, nous avons avancé, détaille Édouard Philippe, et surtout, nous pouvons aller plus loin, insiste le Premier ministre.
La ministre des Solidarités et de la Santé ouvrira une concertation spécifique avec les partenaires sociaux. Le secrétaire d'État chargé des retraites conduira lui-même ce chantier avec les partenaires sociaux dès le mois de janvier.
Les concertations ont lieu entre le ministère.
Une concertation est en cours de poursuivre une concertation spécifique à ce sujet dès la rentrée.
Tout un tas de concertations pour tenter d'améliorer le projet de loi dans des délais extrêmement courts avec un point non négociable.
Le gouvernement ne reviendra pas sur la suppression des régimes spéciaux.
Mais d'autres points qui pourraient potentiellement, éventuellement, être discutés.
Je défends cet âge d'équilibre. Parce que je crois qu'il est juste. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait que l'âge d'équilibre. Il y a des marges de manœuvre, elles ne sont pas immenses, nous le savons tous, mais elles existent. Et je redis ma proposition aux organisations syndicales d'en discuter.
Édouard Philippe rappelle tout de même que l'équilibre financier du nouveau système est une priorité du gouvernement, qu'il va falloir travailler plus longtemps et que la baisse des pensions comme la hausse des cotisations ne sont pas des options. Reste donc l'âge d'équilibre. Le Premier ministre se dit prêt à l'adapter en fonction des carrières.
Et à sa sortie de la réunion, le dirigeant de la CGT, Philippe Martinez, a annoncé une prochaine journée interprofessionnelle d'action le 9 janvier. Le patron de la CFDT dit lui avoir senti une ouverture de la part du Premier ministre, mais il est toujours en désaccord avec lui sur l'âge d'équilibre. Laurent Berger avait appelé plus tôt cette semaine à faire une trêve à Noël. Pendant les vacances, la CGT Cheminots et Sudrail ont de leur côté décidé de continuer le mouvement. Le trafic est toujours perturbé, mais un peu moins qu'avant, avec la moitié des TGV en circulation aujourd'hui et un transilien confirmé sur 4 en moyenne. 6 lignes de métro à Paris sont toujours fermées. Notez que 59% des TGV et intercités programmés les 23 et 24 décembre sont supprimés. Il n'y a pas que dans les transports qu'on se mobilise contre cette réforme, dans l'enseignement aussi. Guillaume Erner en parlera à partir de 7h40 avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, et son invité. Deux pompiers sont morts hier et 3 autres blessés en Australie à une centaine de kilomètres de Sydney. C'est dans cet état de Nouvelle-Galles du Sud que des incendies font rage. L'état d'urgence a été décrété pour une semaine. Camille Magnard y reviendra dans sa revue de presse internationale dans 3 minutes. 23 départements français sont en vigilance orange, la plupart en Auvergne-Rhône-Alpes et dans les Pyrénées pour des risques de vent violent. 9000 foyers étaient privés d'électricité ce matin dans la Drôme et en Ardèche. Dans les Alpes-Maritimes où de fortes pluies sont prévues, les établissements scolaires sont fermés. Le temps, vous l'aurez compris, sera venteux, pluvieux cet après-midi. Vous n'aurez pas plus de 7 degrés à Strasbourg, 10 à Lille, 11 à Paris, 12 à Bordeaux, 14 à Lyon et 16 degrés à Marseille.
En raison d'un appel à la grève émanant de plusieurs organisations syndicales représentatives à Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
Tout de suite, le retour de vos programmes sur France Culture.
7h35 sur France Culture. Et voici la revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Il faisait hier 28 degrés sous un ciel plutôt dégagé à Honolulu sur l'archipel américain d'Hawaï.
Oui, si j'ai choisi de commencer cette revue de presse par un peu de météo, ce n'est pas pour vous donner des idées de vacances, mais pour marquer le contraste avec la journée qu'ont vécu les Australiens ce jeudi. La journée restera comme l'une des plus chaudes dans l'histoire du pays. 40 degrés dépassés à peu près partout, jusqu'à 50 degrés dans les terres du Queensland, comme le relève The Australian. Et forcément, ça ne fait qu'attiser les feux de forêt cataclysmiques qui ravagent le bush australien depuis des semaines déjà. À Sydney et Melbourne, des millions d'habitants respirent un air vicié, intoxiqué par les fumées qui plongent les deux métropoles dans un halo jaunâtre. Et pas plus tard qu'hier, deux pompiers volontaires de cette région des Nouvelles-Galles du Sud ont trouvé la mort en tentant de ralentir la progression des flammes. Deux amis, deux pères de famille dont le Sydney Morning Herald dresse ce matin le portrait.
Alors, pourquoi donc Honolulu ?
Eh bien, c'est justement la question que se posaient ces derniers jours les citoyens d'Australie et leurs médias. Car Honolulu, c'est la destination qu'avait choisi le Premier ministre australien Scott Morrison pour partir en vacances avec sa famille. Hawaï et son climat tempéré où le leader conservateur passait du bon temps, à croire les selfies qui avaient fuité de ce congé. Un congé prévu de longue date et en maintenant ses vacances alors que son pays brûle littéralement, Scott Morrison a choqué l'opinion australienne. C'est vraiment le moins que l'on puisse dire. Pour Geoff Chambers, à lire dans The Australian, l'idée même d'avoir maintenu ses vacances d'avant Noël dans les circonstances que traverse le pays était ridicule et mal avisée. Mais ce qui aggrave le cas du Premier ministre, c'est que son équipe a tenté dans un premier temps d'étouffer l'affaire, d'empêcher les journalistes de savoir où était le chef du gouvernement, pour y faire quoi, etc. Au final, après enquête des médias, on a donc compris que Scott Morrison était allé respirer le bon air d'Honolulu. Mais ce vendredi, une fois découvert, le vacancier s'est fendu d'un communiqué d'excuses et de condoléances aux familles des pompiers décédés à la radio 2GB. Il a aussi exprimé ses regrets profonds que ses concitoyens aient pu considérer son absence comme une offense, un abandon. Et il a annoncé qu'il allait rentrer à Sydney au plus vite.
Et ses regrets n'ont pas vraiment calmé le feu des critiques contre le Premier ministre.
Et dans son édition australienne The Daily Mail nous apprend qu'une pétition exigeant la démission de Scott Morrison a déjà récolté 65 000 signatures. Le tabloïd note aussi la nouvelle maladresse de Morrison dans son interview radiophonique quand il déclarait que de toute façon ce n'est pas moi qui tiens la lance à incendie. Manière de dire que s'il avait été là, ça n'aurait pas changé grand chose à l'ampleur de la catastrophe naturelle. Et bien, pour répondre à cet aveu d'impuissance, le site d'info Independent Australia liste 11 mesures que le chef du gouvernement aurait pu mettre en place au lieu de prendre la tangente. Par exemple, déclarer l'état d'urgence, aller rencontrer les pompiers sur le terrain plutôt que de répéter qu'ils font un travail formidable depuis son bureau climatisé, donner des moyens étendus aux services d'urgence qui sont trop souvent démunis, ou encore agir vraiment contre les émissions de gaz à effet de serre en Australie. Car c'est l'autre erreur politique reprochée à Scott Morrison, entre autres par David Crowe du Sydney Morning Herald, sa réticence depuis des semaines à faire le lien entre les incendies monstres et le réchauffement climatique. Bien plus grave que ces vacances malvenues et le mystère qui les a entourées. Sur ce sujet-là, Morrison ne fait qu'esquiver là où on attendait de lui un discours fort et clair, écrit David Crowe. Un premier ministre qui fait la sourde oreille, donc depuis le départ sur cette question du réchauffement climatique, comme le résume Geoff Chambers dans The Australian, la fuite à Honolulu n'aura finalement été que l'allégorie d'une critique beaucoup plus profonde.
Et sur le calendrier électoral du week-end, Camille, des législatives particulièrement attendues en Ouzbékistan.
Et oui, cette république issue de l'éclatement de l'URSS en Asie centrale organise dimanche ses premières élections législatives depuis la mort de son dictateur Islam Karimov. Un nouveau parlement pour un nouvel Ouzbékistan, c'est le slogan officiel repris pour nous par la BBC. Et c'est bien là toute la question. À quel point ce vent d'ouverture de démocratie qui est censé souffler sur le pays va-t-il vraiment se retrouver dans les urnes? On se le demande, d'autant plus qu'il y a des signes encourageants. La presse ouzbek, à commencer par le site gazeta.uz, se félicite depuis hier du fait que The Economist, très prestigieux hebdomadaire britannique, a fait de l'Ouzbékistan rien de moins que le pays de l'année 2019 pour justement ses progrès démocratiques. Bon, il faut quand même savoir qu'on part de très loin. L'Ouzbékistan, depuis son indépendance en 1991 et sous la férule donc d'Islam Karimov, était devenu l'un des pays les plus répressifs au monde pour tout ce qui pouvait ressembler à une opposition politique ou à une forme de liberté d'expression, ce que The Economist résume par 27 années de brutalité, d'incompétence et de violations terrifiantes des droits humains. Mais le Newsmag note surtout que depuis la mort en 2016 du despote Karimov, l'Ouzbékistan, désormais dirigé par Shavkat Mirziyoyev, va dans la bonne direction. Rien que cette année, il a officiellement aboli l'esclavage et les travaux forcés dans ses camps d'emprisonnement de prisonniers politiques. D'ailleurs, certains de ses prisonniers les plus anciens et les plus emblématiques ont été libérés. Le pays s'est considérablement ouvert sur l'extérieur aussi, au tourisme principalement, avec des arrière-pensées clairement économiques autour des villes mythiques de Samarcande, Boukhara et Khiva. Tout ça est en partie vrai, mais attention tout de même à ne pas se laisser éblouir, tempête dit Economist, à propos des élections de dimanche, qualifiées de semi-sérieuses seulement, pour la bonne raison qu'aucun candidat de réelle opposition au président Mirziyoyev n'a pu se présenter. Alors certes, confirme la radio internationale américaine Radio Liberty, les candidats se permettent des critiques sur la politique menée par le gouvernement central, ce qui aurait été impossible il y a encore 3 ans, mais parler de pluralisme, d'opposition véritable, c'est se faire des illusions. La BBC cite même la crainte du parti d'opposition ERC de voir le pouvoir se durcir encore plus après ce scrutin démocratique de façade. Alors comme le dit Radio Liberty, il ne faut pas trop en attendre des élections ouzbèques.
Eh bien, merci Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.
Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Erner.
7h41, bonjour Jean-Michel Blanquer, vous êtes ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. L'éducation nationale n'est pas épargnée par le mouvement de contestation sociale qui secoue le pays, de l'aveu même du gouvernement, sans revalorisation substantielle de leur rémunération. Les enseignants seront les grands perdants du nouveau mode de calcul prévu par le projet de réforme des retraites. Alors pour rassurer vos troupes, Jean-Michel Blanquer, vous avez promis d'augmenter progressivement les salaires des enseignants à l'horizon futur. Pourtant, l'inquiétude n'est pas retombée chez les enseignants qui étaient encore nombreux à protester ce mardi. Comment l'expliquez-vous ?
Parce qu'il faut qu'ils voient de manière plus concrète quelles sont ces augmentations dont j'ai parlé. Donc c'est assez normal que la fièvre qui a pris au début du mois de décembre retombe seulement progressivement. Mais c'est quelque chose de très sérieux qui s'engage, quelque chose de très concret aussi, qui correspond d'ailleurs à ce que je dis depuis 2 ans et demi maintenant. C'est-à-dire j'ai toujours reconnu qu'il fallait que nous avancions vers une augmentation de la rémunération des professeurs. Et puis là, nous devons maintenant réussir ce passage qui aura lieu le 1er janvier 2021. Donc c'est quelque chose là aussi d'assez concret, d'assez net, qui a été affirmé par le Premier ministre. Et donc lorsque l'on commencera avec les organisations syndicales à préciser les montants en jeu, chacun verra qu'on est dans quelque chose de totalement inédit, ce que chacun commence à voir. C'est-à-dire que c'est des montants importants qui sont en jeu pour arriver à ce que cette hausse des rémunérations au fil des années permettent d'avoir les rattrapages nécessaires.
Alors, on va essayer de prendre les choses un peu précisément. J'ai sous les yeux un tract syndical, celui du SNPTES, qui évoque la manière dont un professeur pourrait perdre de l'argent avec cette réforme des retraites. Alors, un collègue dit ce document décide de maintenir son départ à 62 ans après une carrière complète, donc 168 trimestres. Il devait percevoir 1800 euros à la retraite et il n'en percevra plus que 1620 euros. Donc il va perdre 180 euros par mois. Qu'est-ce que vous allez faire, Jean-Michel Blanquer, monsieur le ministre, pour compenser cette somme, si vous comptez la compenser ?
Voilà, il y a deux sujets différents. Il y a le sujet de l'âge pivot qui est sans doute derrière cette approche.
Il y a bien entendu le sujet de l'âge pivot, mais je cumule ces deux sujets.
Sur l'âge pivot, c'est un sujet qui vaut pour tous les Français. Et donc, il manque quelques éléments dans votre simulation pour pouvoir en parler. Par exemple, en quelle année cela se situe, puisqu'on imagine donc quelqu'un
qui... C'est quelqu'un qui prend sa retraite prochainement, mais...
Si c'est prochainement, si vous voulez. D'abord, la question de l'âge pivot n'a pas encore été définitivement tranchée. Le Premier ministre en a parlé. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup...
Vous pensez qu'il va céder ?
Non, mais il a dit hier qu'il y avait encore des marges de discussion. Là où on ne cède pas...
C'est un peu ce que ça veut dire en langage politique. Non, mais
quels sont les points sur lesquels on ne cède pas ? C'est le caractère universel, qui va vers plus d'égalité, c'est la retraite à points, et c'est le fait d'arriver à un équilibre. Autrement dit, ça c'est la dimension de pérennité, c'est un peu l'engagement qu'on prend vis-à-vis des générations suivantes, puisqu'on veut s'assurer qu'on ne pousse pas la neige de la dette des régimes...
Bien entendu, mais alors prenons l'exemple de mon professeur qui est, là, attendait 1800 euros à la retraite et qui se retrouve avec 1620 euros.
Là, si je comprends ce qui est c'est l'exemple que vous donnez, ce n'est pas le changement de, vers le régime à points qui aboutit à ce que vous dites. Là, c'est une simulation sur le fait que quelqu'un prendrait sa retraite à 62 ans au lieu de 64, qui serait le nouvel âge d'équilibre. Mais ce nouvel âge d'équilibre, c'est encore hypothétique, et ce sera en 2027.
Alors maintenant, passons à la retraite.
C'est pas le cœur de la réforme des retraites. Le cœur de la réforme des retraites, c'est le régime à points. Ce régime à points, depuis le début, le premier à avoir identifié que ça pouvait poser un problème pour les enseignants, c'est moi. Et je l'ai dit évidemment à Jean-Paul Delevoye dans les travaux qui ont été faits, je l'ai dit au président de la République. C'est bien pour ça que le président de la République, dès la fin du mois d'avril, reconnaît parfaitement ce point. Donc aujourd'hui, il ne faut pas faire
mais
semblant
pourquoi
de penser.
Ça n'a pas été clarifié dans ce cas-là.
Non, on l'a dit, mais c'est parce qu'on n'est pas entendu quand on le dit. Mais relisez ce que dit le président de la République à la fin du mois d'avril. Il le reconnaît parfaitement. Alors aujourd'hui, quand je vois des écrits du mois de décembre qui font semblant de ne pas entendre qu'on a reconnu ce point et qu'on a dit qu'on s'est engagé de travailler pour compenser le problème, c'est un peu comme si on cherchait à créer de l'angoisse pour rien.
Alors, je vais vous donner un autre exemple de caractère anxiogène. Jean-Michel Blanquer.
Ce goût pour les choses anxiogènes est quelque chose qui fait mal. Parce que, en réalité, depuis le mois d'avril, le président de la République a dit les choses très clairement. Encore, j'invite chacun à lire les textes, à regarder plutôt que tous les commentaires qui vont dans tous les sens, qui sont souvent faits pour créer de l'anxiété. Vous regardez les choses. Donc, le discours du président de la République à la fin du mois d'avril. Ce que j'ai déclaré dès le mois de juin. Ce que nous avons fait en matière de dialogue social pour préparer les choses dès le mois de septembre. Et maintenant, depuis le mois de décembre, les engagements pris par le Premier ministre lui-même, suivis ensuite par moi-même, par des rencontres syndicales, qui débouchent maintenant sur des premières approches qui vont vers des augmentations très concrètes.
Alors, admettons qu'on ait eu tort de s'inquiéter. Gérald Darmanin dit que les salaires des enseignants, à partir du moment où on a découvert qu'ils auraient une retraite inférieure à celle qui était prévue, qu'il va y avoir une somme pour compenser cela, une somme de 500 millions d'euros, c'est ça ?
C'est la somme qu'il a dite ce soir-là, qui serait dans ce cas-là 500 millions d'euros supplémentaires annuels. Mais c'est encore trop tôt pour être aussi précis.
Il y a 870 000 enseignants. J'ai fait un calcul, c'est un calcul extrêmement sommaire. Ça représente une somme d'un peu plus de 400 euros par enseignant et par an. Comment, avec 400 euros par enseignant et par an, compenser une perte de revenus ? J'étais pas très bon en arithmétique, mais justement, je comprends pas comment vous allez compenser cela.
Il y a plusieurs problèmes dans ce que vous venez de dire. D'abord, ce chiffre reste largement à préciser et doit être le résultat des discussions que nous allons avoir et non pas la porte d'entrée. Ensuite, même en retenant ce chiffre, il ne s'agit pas d'avoir un saupoudrage exactement identique pour tout le monde, puisqu'on sait que le rattrapage que nous avons à faire...
Je parle
de moyenne,
bien entendu.
Non, mais bien sûr, mais il s'agit surtout de rattraper la première moitié la plus jeune, et notamment les gens nés après 1975, puisque par définition, les autres n'ont aucun changement dans leur régime de retraite. Il y aura une revalorisation pour eux, mais elle est forcément moindre que pour les plus jeunes, ce qui est d'ailleurs cohérent, puisque ce que l'on constate dans notre observatoire des rémunérations, et qui est bien connu, c'est que les problèmes de rémunération sont surtout en début et en milieu de carrière à l'éducation nationale. En fin de carrière, c'est mieux rattrapé.
Suite au nouveau mode de calcul, évidemment, ça devient très problématique, puisque vous prenez la totalité de la carrière.
C'est ça. Donc si on déroule le raisonnement, si vous me permettez deux minutes d'affilée. Vous avez une structure de rémunération à l'éducation nationale qui traditionnellement est assez mal payée au début, vraiment mal payée au milieu et assez bien payée à la fin. Et c'est précisément ça qui permet d'avoir plutôt un bon niveau de retraite puisqu'on prend en compte les 6 derniers mois. Tout ceci fait qu'aujourd'hui la moyenne des retraites des enseignants c'est 2600 euros mensuels. C'est plutôt une bonne moyenne et c'est cela que l'on veut préserver. Ce qui a été garanti, c'est le fait qu'on va maintenir ça. C'est-à-dire, l'équivalent du 2600 euros mensuel sera maintenu. Ce qui est une énorme avancée de le dire, de le garantir dans la loi. Et ce sera écrit dans la loi que nous garantissons un niveau de pension. Ça, c'est un point déjà majeur. Ce qui sera écrit dans la loi aussi, et elle sera déposée vous le savez, à l'Assemblée nationale à la fin du mois de janvier, c'est qu'on fera référence à une future loi de programmation que je préparerai tout au long de l'année, notamment au cours des 6 premiers mois avec les organisations syndicales. Et cette loi de programmation me permet de programmer les augmentations de rémunération pour arriver à cet objectif garanti par la loi. Cet objectif, même en prenant le chiffre que vous venez de donner, et en le répartissant d'ailleurs, non pas de manière homogène, mais surtout sur la moitié la plus jeune des professeurs, notamment eux, même si vous l'accumulez année après année, puisque ce n'est pas 500 millions une seule fois, c'est tous les ans.
C'est du récurrent.
Cela fait des sommes considérables en réalité, c'est-à-dire plusieurs centaines d'euros par mois.
Avec 870 000 enseignants, pas forcément.
Si, faites le calcul. Si vous faites ça année après année, au bout de 4... Mais encore une fois, je ne veux pas et je ne peux pas être plus précis à ce stade, puisque nous devons avoir des discussions, et c'est de ces discussions que surgiront les véritables chiffres. Mais même en suivant votre raisonnement, au bout de 4 ans, ça fait 200 euros par mois de plus. Il n'y a aucun domaine où vous avez une augmentation.
augmentation de salaire aussi forte.
200 euros par mois en plus, ça veut dire que les 500 millions vont se cumuler, donc au bout de 4 ans, vous serez à 2 milliards.
Bien entendu. Mais c'est pour ça que c'est considérable. C'est pour ça que, si vous voulez, on est dans une sorte d'asymétrie d'information, parce que j'essaye d'être sérieux, c'est-à-dire de donner les informations au fil du temps, au fil des parce que tout ça suppose du travail technique, du travail budgétaire et du travail de dialogue social.
C'est pourquoi je vous ai laissé expliquer, effectivement.
Tout à fait, mais en même temps que je le fais, toute une série d'inquiétudes
qui sont légitimes également, monsieur le ministre.
Je ne vous dis pas le contraire, mais si vous voulez, c'est très intéressant sur le plan démocratique ce qui est en train de se passer. Parce que, en réalité, on est à la veille d'une revalorisation historique des professeurs en France. C'est difficile à croire. Et regardez le ton de scepticisme que vous prenez. Pourtant, c'est ce qui va vraiment arriver.
Parce qu'en fait, d'ailleurs, je reflète le scepticisme des enseignants sont autour de moi.
Oui, bien sûr, mais on peut comme ça rentrer dans un cercle vicieux du scepticisme. Je vous le dis de manière très claire, nous sommes à la veille d'une revalorisation historique des professeurs. Voilà, on peut se donner rendez-vous dans un an, vous regarderez le bilan de ce qui aura été établi dans l'intervalle. Ce serait pas la première fois qu'il faudrait faire le bilan un an plus tard de ce que j'ai dit et que d'autres ont dit sur tel sujet.
Alors,
je vais vous
faire part, monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer, d'une autre inquiétude.
Si vous voulez, là je suis sur France Culture pour avoir la possibilité d'avoir du temps d'explication, si vous voulez. Ce qui me frappe, c'est à quel point sur ces sujets-là, des slogans sont envoyés, des fausses informations sont envoyées. Même dans les interviews, on n'a jamais le temps de développer quoi que ce soit.
Mais là, vous perdez du temps en disant que vous n'avez pas le temps.
Non, je vous demande juste de ne pas m'interrompre parce que je pense que c'est important d'expliquer. Puisqu'il y a beaucoup de professeurs qui nous écoutent certainement. Nous sommes à la veille d'une revalorisation historique des professeurs. Même si on est dans ce schéma-là à 500 millions que vous avez dit, c'est 500 millions qui en effet se rajoutent chaque année. Donc si on est sur ce rythme-là, qui reste évidemment à confirmer en fonction du dialogue social que l'on va avoir, alors oui, en effet, c'est en centaines d'euros d'augmentation mensuelle que sur quelques années, cela va se traduire, notamment pour la moitié la plus jeune des professeurs de France. C'est cela le schéma dans lequel nous sommes en train d'entrer. Donc c'est extrêmement concret et aucune profession en France ne connaît une revalorisation pareil. Voilà, c'est quand même très important.
Cette revalorisation, monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer, sous quelle forme s'agit-il? De primes ou va-t-il s'agir d'une revalorisation qui ne va pas modifier le métier d'enseignant? Parce que ça aussi, c'est l'autre inquiétude des enseignants.
Non, là aussi, beaucoup de discours sont faits pour un petit peu inquiéter. Mais en réalité, il y a beaucoup d'améliorations possibles dans notre système scolaire. J'entends sans arrêt une série de frustrations, d'inquiétudes qui ne sont en dehors du sujet des rémunérations, le sujet de la santé au travail, le sujet de l'organisation du travail, le sujet de la sécurité, le sujet de l'aide, par exemple, au logement pour les plus jeunes dans notre système. Toute une série de choses, et puis les évolutions éducatives et pédagogiques, la prise en compte de la révolution technologique dans laquelle nous sommes entrés. Bref, nous avons une occasion historique, là encore, à l'occasion de cette revalorisation, de définir ce qu'est le professeur du 21e siècle. Donc cette occasion de modernisation du système, pour que aussi notre mode de fonctionnement soit au service des élèves, puisque nous faisons cela à la fois pour revaloriser les professeurs, pour remettre le professeur au centre de la société française, et pour faire que ce positionnement du professeur soit au service des élèves. C'est-à-dire qu'à la fin, nous ayons une amélioration de notre système scolaire. Donc cela suppose un investissement de la nation dans son éducation nationale. Je suis l'avocat inlassable de cela, y compris une échelle européenne, pour qu'il y ait un pourcentage du produit intérieur brut plus important consacré à l'éducation dans tous les pays d'Europe. Et en ce qui concerne la France, c'est donc ce qui va se passer, parce que c'est le meilleur investissement d'avenir. Ça va se traduire par une augmentation du salaire des professeurs, mais aussi peut-être par d'autres façons d'être organisé, tout simplement.
Donc il y aura une contrepartie. Jean-Michel Blanquer.
Oui, c'est pas le mot que j'utilise.
Nouvelles missions pour les professeurs.
Ou parfois la reconnaissance de choses qui existent, qui sont masquées. On parle souvent de la préparation de cours, des corrections de copies. Tout ceci doit être plus explicité. Au-delà de ça, c'est la façon dont on travaille. Dans le futur, il est souhaitable qu'on encourage tout ce qui permette de travailler en équipe, par exemple. Il y a aussi tout un tas de sujets liés à la réforme des retraites, comme la cessation progressive d'activité, pour être capable de beaucoup plus personnaliser à la fois le parcours de chaque professeur et tout simplement ses choix de vie.
Qu'est-ce que ça veut dire, personnaliser?
Il y a mille choses. Par exemple, quand je parle de cessation progressive d'activité, lorsque vous avez une soixantaine d'années, vous pouvez désirer faire, par exemple, moins d'heures de cours, mais peut-être plus d'aide personnalisée aux élèves. C'est ce type de choses qui doivent être rendues possibles. Cette personnalisation, c'est aussi vrai pour les mutations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frustrations liées à nos caractéristiques parfois un peu anonymes, parfois un peu bureaucratiques. Nous devons avoir une gestion des ressources humaines totalement modernisée. Tout ceci, nous avons 6 mois de dialogue social pour permettre de le faire avancer au moment même où nous allons mettre tout simplement beaucoup plus de moyens dans l'éducation nationale.
6 mois de négociations, est-ce que tout sera sur la table? Est-ce que cette augmentation, je vous repose autrement ma question, Jean-Michel Blanquer, Monsieur le Ministre, est-ce que cette augmentation du salaire des enseignants, elle va être conditionnée par exemple à une évolution, une modification de leur temps de travail, de la durée des vacances? Bref, est-ce qu'il va y avoir une modification substantielle de leur mission?
Non, alors là, vous avez dit plusieurs choses assez différentes. S'agissant des vacances, c'est pas tellement ça le sujet, à mon avis. Le sujet, c'est beaucoup plus la façon d'avoir une vision de son temps, non pas seulement sur une année, mais même sur plusieurs années. Être capable de se dire, par exemple, je vais rester 5 ans dans tel endroit, et le fait d'y rester 5, parce que, par exemple, en réseau d'éducation prioritaire, le fait d'y rester 5 ans va me faire acquérir des droits particuliers. Mais je m'y engage, et je m'y engage peut-être en équipe. Vous voyez, c'est être capable d'avoir des formes d'accord sur la durée, sur avoir une vision sur le court terme, le moyen terme et parfois le long terme sur la façon dont on envisage sa carrière. Ça fait partie des choses à discuter. Il n'y a rien de très binaire dans tout ça, si vous voulez. C'est beaucoup
donc
plus
systémique. Tout est sur la table.
Tout est sur la table, c'est l'occasion.
L'annualisation du temps de travail?
Oui, tout est sur la table, tout est possible. On peut discuter
oui,
tout, pas
spécialement. Oui, aussi l'annualisation non, du temps de travail.
Ces sujets-là, si vous voulez, quand vous utilisez ce type de terme-là, vous pouvez être sûr que 1000 esprits se braquent. Et c'est pas mon but. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait une vision systémique des choses. Dès qu'il y a trop de sujets qui, lorsqu'on les aborde, deviennent immédiatement des chiffons rouges qui agacent tout le monde et qui empêchent de discuter. C'est à cause de ces blocages-là qu'on n'arrive pas parfois à moderniser autant qu'on le voudrait le système au service des professeurs et des élèves, et au service d'ailleurs de tous les personnels. Moi, ce que je veux, c'est une éducation nationale où il y ait du bien-être au travail pour tous, pour les adultes comme pour les élèves. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de limites. Pourquoi ne pas les regarder ensemble, pour les dépasser ensemble? Et ça passe beaucoup par des améliorations très concrètes pour les professeurs. Et évidemment, le signal de la rémunération est un signal très fort. Donc, à la veille de moyens très importants que la nation va mettre dans son éducation nationale, tout à fait normal de remettre tout cela à plat et de le faire dans le dialogue social, dans la sérénité, en le faisant aussi avec un angle international. C'est pour ça que je vais organiser dans la deuxième quinzaine de mars une grande conférence internationale sur le professeur du 21e siècle, dont le but, encore une fois, est de remettre le professeur au centre de la société. On est en train d'entrer dans un monde complètement nouveau avec la révolution numérique, où le paradigme central a changé, notamment dans l'accès à l'information, et on aura encore plus besoin des professeurs, encore plus besoin d'en recruter, encore plus besoin de bien les payer, encore plus besoin de bien les accompagner. C'est cette révolution là, de l'organisation des ressources humaines que nous devons organiser, et si possible de manière constructive et dans le dialogue social. Et donc, c'est pas, si vous voulez, pas les schémas binaires classiques qu'il faut avoir.
Il y a quand même beaucoup de choses qui vont devoir être modifiées. Si je vous suis, et du coup, on imagine l'anxiété des étudiants avec une situation sociale qui est extrêmement tendue. Est-il opportun de modifier tant de choses alors que le premier problème, c'est cette réforme des retraites? Je veux dire, c'est un problème puisque elle laisse augurer à ses enseignants une diminution sensible de leur pension de retraite.
Non, mais je pense que c'est pas nécessaire de répéter cela comme un moulin à prière, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit, et pas seulement moi, le Premier ministre et le Président disent deux choses qui sont des engagements très fermes sur lesquels on peut être jugé à très court terme. C'est-à-dire, premièrement, la garantie des pensions qui sera écrite dans la loi. Deuxièmement, l'augmentation des rémunérations qui sera écrite dans la loi de programmation. Ces choses-là sont extrêmement concrètes et vont se concrétiser au cours des prochains mois. À partir du moment où on dit cela, on peut aussi, sur ce socle-là, travailler sur des enjeux qualitatifs de notre système, encore une fois, au service de notre pays, puisque à la fin, ce qui compte, c'est que nos élèves sortent de manière bien formée de notre système scolaire, et que, par rapport à toute une série de limites qui sont constatées par les uns et les autres, à commencer par les professeurs eux-mêmes, on sache les dépasser. Donc il y a vraiment une opportunité très, très constructive d'agir. Et quand vous parlez de climat, le climat, il dépend de chacun d'entre nous, de notre manière d'aborder de façon constructive ces enjeux-là.
Et alors justement, qu'est-ce qui empêche? Parce que il y a peut-être effectivement la répétition de peur, mais cette répétition de peur, elle est liée aussi à une manière de présenter les choses où beaucoup de choses vont devoir, semble-t-il, être négociées. Jean-Michel Blanquer, Monsieur le Ministre.
Je dirais même pas négocier, discuter. C'est-à-dire, moi, je crois, vous savez, si je me suis engagé dans l'éducation comme tous les professeurs très jeunes, c'est parce que je crois à l'esprit, je crois à la dimension intellectuelle des choses. Je pense qu'il faut penser les choses. Je pense que la discussion, le débat, doit permettre d'avancer. Moi, je rentre pas là-dedans comme dans une sorte de négociation binaire, puisqu'on se poursuit les mêmes intérêts. Et les mêmes intérêts, c'est effectivement un grand investissement dans l'éducation nationale, pour des professeurs qui soient mieux dans leur travail, et des élèves qui réussissent davantage. Bah, sur cette base-là, et en regardant, on dispose de très nombreuses études pour savoir dans quel sens avancer, on a de la comparaison internationale à faire, et donc tout ce travail-là doit être collectif, et c'est un peu pour moi un enjeu assez beau des 6 prochains mois, et que j'envisage d'ailleurs avec vraiment beaucoup d'intérêt, sur le plan intellectuel comme sur le plan pratique, c'est-à-dire comment on réussit à passer une nouvelle étape de notre système, cette fois-ci pas par une évolution pédagogique particulière, comme avec différentes réformes, comme les réformes de l'école primaire ou du lycée actuellement, mais par une réforme des ressources humaines.
Merci Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, d'avoir été avec nous ce matin sur
Merci
France Culture. Dans une vingtaine de minutes, on se retrouve en compagnie d'une cinéaste, Valérie Donzelli, qui signe un film sur Notre-Dame. Elle sera dans ce studio dans quelques instants, 8h sur France Culture. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les désaccords de fond ne sont pas levés sur la réforme des retraites. Les discussions entre gouvernement et partenaires sociaux n'y ont rien changé ou presque hier. L'âge pivot reste un gros point de blocage, vous l'entendrez.
Dans ce journal, nous nous pencherons aussi sur les épreuves à venir du baccalauréat. Le contrôle continu débutera après les vacances de Noël, mais l'organisation a pris du retard. Cela inquiète professeurs et élèves.
L'une des plus vieilles centrales nucléaires de Suisse sera débranchée aujourd'hui. Un choix du gouvernement qui pose quand même la question du stockage des déchets nucléaires, vous le comprendrez.
Et puis nous ferons un point sur la grève à Radio France et les négociations avec la direction concernant le plan de suppression de postes.
Dans un gros quart d'heure enfin, Stéphane Robert nous rejoindra. Il se penchera sur la jeunesse agacée de voir ses aînés dégrader la planète. Son billet politique à 8h17. Le bilan est mitigé après les discussions entre gouvernement et syndicats sur la réforme des retraites. À la sortie de la réunion multilatérale hier, la situation semblait un peu moins crispée. Une envie commune d'avancer, mais dans quel sens et sur quel point? Le Premier ministre Édouard Philippe a ainsi égrené hier les mesures sur lesquelles il est prêt à modifier la réforme. Réforme dont l'objectif reste toujours le même, Anne-Laure Jumet.
Équilibrer le régime de retraite, cela reste la priorité, assure Édouard Philippe. Mais le Premier ministre ouvre la voie à une solution à géométrie variable. Il pourrait y avoir ainsi des âges pivots. Pour définir l'âge de départ, on prendrait en compte plusieurs paramètres. La pénibilité, les carrières longues ou encore le handicap. Et puis, Édouard Philippe n'exclut pas non plus d'avoir un âge d'équilibre temporaire avec un système de décote limité dans le temps sur le modèle de ce qui a été décidé pour les retraites complémentaires. Pour ce qui est des régimes spéciaux, pas question non plus de revenir sur leur suppression, mais le Premier ministre fait part de sa volonté de le faire sans brutalité. Et pour les fonctionnaires, il y aura une consultation spécifique à la rentrée pour voir comment atténuer l'impact de la perte de calcul de pension sur les 6 derniers mois. D'autres chantiers vont s'ouvrir après les vacances de Noël, des chantiers thématiques sur l'emploi des seniors, l'aménagement des fins de carrière ou encore la pension minimum, avec pour objectif d'améliorer le projet de loi lors de la discussion parlementaire.
Les discussions à propos de ces chantiers reprendront donc début janvier. Quant à la position du gouvernement sur un âge pivot différencié, elle n'a pas convaincu la CFDT. C'est un point majeur d'ailleurs de désaccord avec le syndicat réformiste, son secrétaire général Laurent Berger.
Il y a un désaccord sur la question de l'âge d'équilibre. Je dois dire que le Premier ministre a dit que si on trouvait une meilleure solution, il était preneur. On a senti une ouverture. Il faut le dire, de la part du Premier ministre, la réunion s'est passée dans un climat constructif, mais il n'y a pas eu une volonté de dire, bah, écoutez, on met ça un peu de côté, on prend le temps d'en discuter, comme le réclame la CFDT. On a fait notre job, il n'y a pas d'avancée notable sur la question de l'équilibre, mais on continuera d'en discuter. Et on viendra à chaque fois que nécessaire essayer de convaincre.
Laurent Berger de la CFDT. De leur côté, la CGT et Force ouvrière appellent déjà à une nouvelle journée de mobilisation le 9 janvier prochain. Eux demandaient le retrait pur et simple du projet de système de retraite par points. Et d'ici cette nouvelle journée nationale, la grève elle continue dans certains secteurs. Dans le ferroviaire, à 4 jours du réveillon de Noël, la SNCF détaille les conditions de circulation de ses trains. Les 400 000 personnes qui ont déjà acheté un billet pour les 23 et 24 décembre auront un train, mais la moitié devront changer d'horaire. Pour les 25 et 26 décembre, l'entreprise ferroviaire doit annoncer tous les détails dans la journée. Il y a par ailleurs aujourd'hui un peu plus de TGV en circulation. En revanche, en Île-de-France, le trafic reste très perturbé pour les métros et les RER. RER notamment. Des trajets difficiles couplés à des vacances probablement studieuses. Cette pause de fin d'année ne sera sans doute pas très festive pour quelques élèves de première. En tout cas, avec la réforme du baccalauréat, ils devront passer à partir du 20 janvier prochain de premières épreuves anticipées, organisées dans la précipitation selon certains. Ce contrôle continu comptera pour 30% de la note finale à Kim Kasmi.
La première session du bac comprendra les épreuves de langue vivante et d'histoire-géographie pour les filières générales, ainsi que les mathématiques pour les séries technologiques. Les enseignants devront donc choisir des sujets dans une banque de données dédiée et sécurisée, sauf que la plateforme, qui devait être prête à la rentrée, ne l'est que depuis 2 semaines. Résultat, les élèves et leurs professeurs n'ont pas vraiment eu le temps de se préparer pour les examens, d'autant que les nouveaux programmes sont très chargés. Éric Bastigue, secrétaire général de la FCPE.
Le stress est multiple. De nouveaux programmes, une nouvelle organisation. On constate que le groupe classe a complètement explosé avec les enseignements de spécialité. Donc une entraide entre les élèves qui est de plus en plus compliquée, un travail en groupe qui est quasiment impossible, une multitude d'enseignants en phase 2. Tout ça fait qu'aujourd'hui, nous avons des enfants en première qui sont ravis, vraiment ravis, d'arriver aux vacances parce qu'ils sont très, très fatigués et inquiets, bien entendu.
Face à ce constat, la FCPE, tout comme le SNES, demande donc l'ajournement des épreuves. Pas question pour le ministère de l'Éducation, qui indique tout de même avoir conscience du problème. Il devrait donc apporter les ajustements et les précisions à la rentrée de janvier aux proviseurs, notamment sur les programmes, la fraude et les candidats par correspondance.
Jean-Michel Blanquer, vous êtes l'invité des Matins de France Culture, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Que répondez-vous tout simplement aux élèves et surtout aux syndicats que nous venons d'entendre ?
D'abord, je dirais à votre journaliste qui est toujours excellente, qui peut interroger aussi d'autres fédérations de parents d'élèves, d'autres syndicats.
C'est
tout le monde ne dit pas la même chose. Non, mais c'est dans un tel reportage, on n'entend qu'une seule voix. Je voudrais d'abord dire, que les élèves de première sont d'abord en général très ravis de la situation dans laquelle ils ont été depuis la rentrée, c'est-à-dire avec beaucoup plus de choix, qui leur a permis plus d'approfondissement, que le contrôle continu a une logique que nous assumons complètement et qui est bonne, c'est-à-dire que les élèves sont beaucoup plus en continu au travail, que quand on a parlé tout à l'heure du retard de la banque de sujets, c'est une semaine de retard, c'est-à-dire ça devait être début décembre et ça a été une semaine plus tard, c'est regrettable mais ça change pas grand-chose pour des épreuves qui sont le 20 janvier. Bien entendu, il y a beaucoup de choses très nouvelles dans tout cela, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des interrogations, des questions, mais même la personne que l'on entend qui dit qu'il y a il a parlé, je crois, d'explosion du groupe classe, non, c'est tout à fait autre chose. Vous avez d'une part la classe qui correspond au bloc horaire commun qu'ont les élèves en classe de première. Ça représente la majorité des heures quand même. Et puis après, vous avez les enseignements de spécialité. Les conseils de classe ont eu lieu, ont été organisés un peu différemment d'habitude, mais de manière très intéressante. Parce que vous avez à la fois le conseil de classe habituel sur le bloc horaire commun, et puis un travail sur les enseignements de spécialité pour tous les élèves qui ont choisi un même enseignement de spécialité. Donc on est dans une logique beaucoup plus collective que précédemment, parce que, par exemple, on fait travailler plus ensemble les professeurs d'un même enseignement de spécialité. Et puis les élèves sont amenés précisément à être en classe ensemble sur le bloc horaire commun, mais aussi à connaître d'autres camarades dans le cadre des enseignements de spécialité. Donc on est au contraire beaucoup plus dans une logique collective, et puis je dirais dans une logique de fond en fait. C'est-à-dire que les élèves approfondissent davantage, travaillent plus en continu, et puis le contrôle continu qui aura lieu à la fin du mois de janvier, c'est quelque chose d'assez simple, vous savez, c'est des épreuves qui ne durent pas plus de 2 heures justement, ont fait l'objet d'un travail en continu. Par ailleurs, le pourcentage de chacune de ces épreuves pour la note finale est relativement petit, donc ce n'est pas non plus quelque chose qu'il faut dramatiser, mais qui permet en petite foulée de se préparer à ce qui suivra. Donc la réforme produit ses fruits progressivement. Encore une fois, moi je comprends parfaitement qu'il y ait des questions et même parfois des inquiétudes pour quelque chose de si nouveau et de si profond. Ça, c'est tout à fait normal. Mais je pense que c'est pas nécessaire de toujours décrire les choses en négatif, alors même que là, on a quelque chose qui change profondément dans un sens qui a toujours été souhaité notre système, c'est-à-dire des élèves qui ne sont pas en situation de bachoter, mais en situation de travailler tout au long de l'année, et des élèves qui sont en situation de choisir davantage, et puis aussi de parfois d'avoir une classe organisée beaucoup plus sur des choix, du travail collectif de fond, plutôt que sur des hasards.
Merci Jean-Michel Blanquer pour votre réponse ce matin, ministre de l'Éducation nationale. Vous étiez l'invité des Matins de France Culture.
Merci beaucoup.
Je souligne par ailleurs une décision importante attendue ce matin au tribunal correctionnel de Paris. Il s'agit du jugement dans le procès de France Télécom pour harcèlement moral. Une vague de suicides et de dépression y avait frappé le personnel entre 2007 et 2010. La procureure avait requis 75 000 euros d'amende à l'encontre de l'entreprise France Télécom. 1 an de prison ferme contre 3 anciens dirigeants de l'entreprise.
8h09. 9 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La Suisse va éteindre aujourd'hui l'une de ses plus vieilles centrales nucléaires.
Oui, à 12h30 tout à l'heure, le réacteur de la centrale de Mühleberg sera débranché. C'est une première en Suisse qui a décidé de se passer de l'atome. Une première, mais qui pose tout de même beaucoup de questions, surtout sur le stockage des déchets radioactifs. Le gouvernement suisse, lui, ne veut voir que du positif, Jérémy Lanche.
Am 20. Dezember, wir schalten das Kernkraftwerk.
Spot vidéo, cérémonie retransmise en direct à la télévision, apéro avec les riverains et les employés. Rarement une centrale nucléaire n'aura été autant à la fête au moment de son enterrement. Le démantèlement de Mühleberg va durer 15 ans, le temps d'évacuer les 200 000 tonnes de déchets, dont 18 000 tonnes radioactives qui vont être stockées à l'autre bout du pays. Problème, le site est temporaire, la Suisse n'a pas encore décidé où enfouir les restes de ces centrales amenées à être démantelées. Qu'importe pour la ministre de l'énergie, Simonette à Somaruga, qui préfère voir le verre à moitié plein.
C'est une journée historique, je dirais, mais je sens surtout les chances, les opportunités que ça donne pour l'énergie hydraulique et l'énergie solaire. Aujourd'hui, on dépense des milliards de francs chaque année à l'étranger pour acheter du pétrole, du gaz. Les investissements dans le solaire dans notre pays, c'est bien aussi pour l'économie, pour les places de travail.
Dans l'immédiat, la fermeture de Mühleberg pourrait surtout conduire à une hausse des importations d'électricité venues d'Allemagne et de France, car si la Suisse exporte en général plus d'électricité qu'elle n'en importe grâce à ses barrages hydroélectriques, ce n'est pas le cas en hiver quand la consommation énergétique explose.
C'est un pays où le rideau de fer s'est brutalement abattu un soir de Noël, en direct ou presque, sur les télévisions occidentales. Le 25 décembre 1989, en Roumanie, Nicolae Ceaușescu était fusillé avec sa femme après un simulacre de procès. Fin d'une révolution en trompe-l'œil dont l'histoire précise reste encore à écrire. 30 ans plus tard, la Roumanie est en train de changer. Le pays est membre de l'Union européenne depuis 2007, mais la corruption y est légion. Et pour le grand reportage de la rédaction ce vendredi, Louise Baudet s'y est rendue. Elle a notamment rencontré Ioana Vulcan, 33 ans, qui, comme toute une génération d'ailleurs, espère quitter la Roumanie malgré un emploi stable et bien payé.
C'est difficile de vivre dans un pays où on paie des impôts et des taxes pour enrichir des gens qui sont vraiment nuls. Pas seulement corrompus, ils sont vraiment stupides. Il faut avoir de patience, mais moi je ne suis pas sûre que j'ai cette patience. J'ai presque 33 ans, je pense aux enfants. Et dans ces conditions, c'est une folie. Je proteste, je vote et tout ça. Je ne suis pas sûre si ça suffit pour changer quelque chose qui devait être changé il y a 30 ans. Jusque maintenant, on n'a pas fait un vrai procès du communisme. Qui sont les gens qui ont vraiment pris le pouvoir? Et on a beaucoup de lacunes dans notre connaissance de l'histoire. On n'a pas nettoyé notre histoire avec le communisme. C'est difficile dans cette condition de construire quelque chose saine, durable et soutenable.
Révolution roumaine, 30 ans après, l'espoir entravé. Un grand reportage de Louise Baudet réalisé grâce à Annie Bro. Il sera présenté ce soir par Aurélie Kiefer, diffusé à partir de 17h. Et avant cela, l'antenne de France Culture sera peut-être encore perturbée ce vendredi. Cela s'inscrit dans un mouvement de grève qui dure depuis 26 jours maintenant à Radio France. Mouvement contre la suppression de 299 postes et 60 millions d'euros d'économies. Hier, les antennes du groupe ont été fortement perturbées. La grève dure et semble commencer à faire bouger la direction, du moins d'après les syndicats, Maxime Tellier.
Une porte entrouverte ou entrebâillée, une petite lumière au bout du tunnel, c'est la première fois que les organisations syndicales évoquent un changement de ton de la présidence. Alors timide, certes, mais hier, ils ont été invités à négocier par la direction des ressources humaines en présence de Sybille Veil, PDG de Radio France. Changement de ton car cette fois, il n'était plus question de discuter de l'accompagnement du plan de départ volontaire. Les syndicats s'y refusaient de toute façon. Non, il était question de parler de réorganisation. Alors le changement est subtil, il n'est pas très clair, reconnaissent les syndicats, mais un délégué expliquait hier en AG devant le personnel tout ce qui permet de mettre en mouvement cette direction est bon à prendre. Un autre délégué enchaîné au micro, la direction se retrouve piégée selon lui, car elle ne s'attendait pas à un mouvement qui dure autant. Le même syndicaliste qui évoque aussi le gouvernement inflexible qui refuse de retirer les économies imposées à Radio France. La grève continue donc, soutenue par des personnels qui s'adresse aussi et surtout à l'État, accusé de s'en prendre à tous les services publics en général. Quant à la direction de Radio France, elle n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. La présidente Sybille Veil a tout de même publié une série de tweets hier où elle se posait en défenseur de Radio France, dont les moyens doivent être préservés au sein de France Média, la future holding du service public audiovisuel.
Maxime Tellier. Et avant que ne reprenne la musique sur France Culture, conséquence d'une journée blanche hier, le journal ce matin est raccourci. Je vous livre la météo du jour. Des vents violents vont souffler sur 16 départements des Pyrénées et du Centre-Est, avec des rafales pouvant atteindre 200 km/h en haute montagne aujourd'hui, tandis que de grosses perturbations menacent encore le sud-est du pays. Les établissements scolaires sont d'ailleurs fermés dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui. Côté température, il fait ce matin 8 degrés à Besançon, 10 à Nantes, 11 degrés à Lille et Bordeaux, 14 à Lyon et à Paris, 17 degrés à Perpignan.
En raison d'un appel à la grève émanant de plusieurs organisations syndicales représentatives à Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
Le retour de vos programmes sur France Culture.
Ah, génial. Et oui, tout de suite, génial, c'est Valérie Donzelli qui est notre invitée, elle réenchante Notre-Dame. C'est un très beau film enchanteur qui donne beaucoup de joie, peut-être à une période où parfois on se dit qu'on n'a pas beaucoup de joie. Oui, mettez votre casque, Valérie Donzelli. On va écouter tous les deux le billet politique de Stéphane Robert, si vous le voulez bien. Stéphane, de quoi allez-vous nous parler? Bah, vous aussi, vous êtes en train d'essayer de brancher votre casque. Oui, bonjour Stéphane.
Bonjour Guillaume Herner.
Comment ça va Stéphane? On va parler de quoi?
On va parler des jeunes qui n'aiment plus beaucoup les vieux.
Bon, on va en parler dans quelques instants et puis dans 30 minutes bien entendu, vous retrouverez vos habituels, la séquence TTC avec la transition d'Hervé Gardette, la théorie culturelle de Mathilde Serrel et puis la conclusion d'Aurélien Bélanger. Il est toujours 8h17 sur France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Et si la culture était un signe des temps, Marc Bitzmann.
Les écrivains, les cinéastes, les metteurs en scène envisagent le monde autrement que le font les politiciens, les sociologues et les journalistes. Ils posent d'autres questions et quand ils posent les mêmes, ils les posent différemment. Cette liberté, c'est ce que nous allons explorer ensemble chaque dimanche sur France Culture dans Signe des temps à 12h45.
Signe des temps, Marc Bitzmann, chaque dimanche à 12h45 et sur franceculture.fr.
8h18. Le billet politique, Stéphane Robert. Ok, boomer, les jeunes contre les vieux.
Alors qu'on débat beaucoup avec le conflit sur la réforme des retraites, de la manière de maintenir en France un système de solidarité intergénérationnelle, les jeunes, une partie d'entre eux en tout cas, commencent à regarder leurs aînés, autrement dit les vieux, avec un certain agacement qui balance entre la moquerie et l'exaspération. En témoigne un phénomène mondial qui commence tout juste depuis quelques semaines seulement à faire parler de lui dans notre pays, le phénomène OK Boomer. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un mème, pour reprendre un anglicisme, autrement dit d'une idée, d'un concept qui se diffuse de façon virale sur les réseaux sociaux, sur Internet, et qui est une manière polie qu'a trouvé la jeunesse de dire aux personnes d'un certain âge qui leur font la leçon, en l'occurrence à la génération vieillissante des baby boomers, qu'elles feraient mieux de se taire. Autrement dit, c'est une insulte qui renvoie les vieux à ce qu'ils sont, des vieux, mais une insulte qui reste polie. Ok boomer, vas-y, cause, tu peux causer, de toute façon ce que tu dis c'est des trucs de vieux, ça ne m'intéresse pas. Les premières occurrences de cette expression semblent être apparues dans des conversations sur internet aux États-Unis en 2015, selon le site internet Know Your Meme, mais jusqu'à il y a quelques mois elle était restée quasiment confidentielle. Tout a démarré l'été dernier aux États-Unis sur le réseau social TikTok avec cette vidéo où on voit une personne d'une soixantaine d'années qui porte une casquette et qui fait la leçon à un adolescent assis dans sa chambre à son bureau.
The millennials in Generation Z have the Peter Pan syndrome. They don't ever want to grow up. They think that the utopian...
Les milléniaux, ceux qui sont nés dans les années 80 et 90, c'est la génération Z, autrement dit ceux qui sont nés après 1995 et n'ont pas connu le monde sans Internet, dit cet homme sur un ton moralisateur, ont le syndrome de Peter Pan, ils refusent de grandir. Et il poursuit la leçon, ils ont l'impression qu'ils peuvent transposer leurs idées utopiques dans le monde des adultes. À ce moment-là, l'adolescent écrit quelque chose sur une feuille, il le montre à la caméra, c'est marqué « OK ». Boomer. Traduction, cause papy, de toute façon t'es vieux, tu vas bientôt mourir. Une autre vidéo, beaucoup plus récente, a elle aussi fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est celle d'une députée néo-zélandaise du Green Party, le parti écologiste, Chloé Zwarbrick, 25 ans. Elle évoque l'urgence qu'il y a à prendre des mesures contre le réchauffement climatique. Et alors qu'elle parle, un député manifeste bruyamment son désaccord. Elle répond alors...
The average age of this 52nd parliament is 49 years old. Okay, boomer.
Ok boomer, cette vidéo a été vue un nombre incalculable de fois dans le monde entier. L'expression se répand comme une traînée de poudre numérique. Tout un tas de produits dérivés sont apparus, des t-shirts, des tasses, des coques de téléphone portable. Il y a aussi des chansons.
You're a boom, ok boom. Book good, phone bad. When I was 25...
Le travail c'est bien, le smartphone c'est pas bien. Cette chanson met en scène la manière qu'ont les personnes âgées de faire la leçon aux adolescents. Ados qui leur renvoient cette expression de manière à la fois blasée, moqueuse et sans concession. Ok, boomer.
Ça fait penser à cette jeunesse qui, derrière Greta Thunberg, reproche aux adultes d'avoir épuisé les ressources de la planète, Stéphane.
Oui, c'est exactement ça. La diffusion de cette tournure, de cette sentence au niveau planétaire est en partie liée au réchauffement climatique et aux moqueries condescendantes des personnes plus âgées face à la mobilisation souvent radicale de la jeunesse en faveur de l'environnement. Et derrière ce même, cette expression en apparence polie, il y a un reproche très brutal, très radical adressé à la génération des baby boomers. Ils sont accusés d'avoir profité d'une croissance économique insolente sans avoir réfléchi, mesuré, pris en compte les effets de leur jouissance consumériste incontrôlée. Et par voie de conséquence, ils sont accusés d'avoir détérioré la planète, dégradé le climat et de ne laisser derrière eux que leur détritus. C'est tout ça qu'il y a dans cette expression « ok boomer ». Elle témoigne d'une rupture générationnelle, écrivait il y a quelques mois le New York Times. Plus encore peut-être, elle marque une fracture et un basculement entre le monde d'hier où l'on imaginait que l'humanité se dirigeait de façon continue et inéluctable vers le progrès et le bien-être, et le monde qui vient où les jeunes générations ont désormais la certitude qu'elles vivront demain moins bien qu'hier. Alors si jamais vous décidez d'évoquer avec un adolescent de votre entourage la question des retraites et que vous affirmez, selon vos convictions, soit qu'il est nécessaire de maintenir l'âge de la retraite à 60 ans ou bien de le repousser cet âge à 64 ans, et que c'est aussi pour son bien à lui, ne soyez pas trop surpris s'il vous répond « Ok, boomer ».
Merci beaucoup. Stéphane, Robert, Valérie, dont vous avez dit, ça vous plaît, « Ok, boomer ».
Oui, mais c'est vrai que j'en avais entendu parler aussi, et de cette génération privilégiée, en fait, des baby-boomers qui ont eu l'emploi, qui ont eu...
Parfois, voilà, un bel emploi, par exemple, voilà, dans une agence d'architecture, puisqu'on va parler de ça dans quelques instants.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
8h23, nous sommes en compagnie de Valérie Donzelli, cinéaste. Votre film Notre-Dame, en quelques mots, je vais le présenter. 4 ans après Marguerite et Julien, votre précédent long métrage, vous revenez avec une comédie inspirée de votre vie, ou en tout cas où on voit une femme intitulée Maud Crayon. Elle est architecte, c'est une architecte parisienne, et elle remporte, après un concours, c'est tout à fait inattendu, c'est un double concours en quelque sorte, l'appel à contribution de la ville de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame. Mais votre projet, hélas, Valérie Donzellier, est loin de remporter l'adhésion du public parce qu'on peut y voir des symboles, je ne sais pas, peut-être un peu phalliques. Bref, vous tentez de concilier vie personnelle et retombée de cette polémique architecturale et vous allez devoir vous débattre, en fait, dans un monde qui vous est largement étranger, les polémiques, par exemple, comme celle que l'on évoque dans les tranches d'actualité de la radio ou de la télé et une vie personnel qui est une vie compliquée, vous êtes écartelé entre deux hommes, votre ex qui est assez envahissant, un autre garçon que vous convoitez mais qui ne se laisse pas faire. C'est un film extrêmement joyeux qui permet d'enchanter, de réenchanter et des journées qui peut-être aujourd'hui manquent un peu de lumière, avec là aussi la silhouette de la cathédrale Notre-Dame. Et on se dit bien entendu qu'il y a un hasard incroyable, le fait que vous tourniez ce film sur le réaménagement du parvis de Notre-Dame à une époque où la cathédrale, pour d'autres raisons, était dans l'actualité. Qu'est-ce que ça a suscité en vous, Valérie Donzelli?
C'est surtout que ça a été... Enfin, moi, quand l'incendie de Notre-Dame a eu lieu, j'ai eu l'impression de perdre un peu une bonne copine. Parce que quand on écrit un film sur Notre-Dame... Moi, j'ai tourné le film en octobre 2018. J'ai terminé le montage en avril 2019. Donc, le jour où Notre-Dame a brûlé, on finissait. C'était notre dernier jour de montage image. Donc, le film était en boîte, en quelque sorte.
Mais c'est pas un peu inquiétant, ça, quand même? Vous avez peut-être des super pouvoirs.
Oui, non, je ne suis pas une sorcière, je tiens à le dire. Il faut arrêter avec cette légende des femmes sorcières.
Non, j'ai pas parlé de sorcières, c'est vous qui l'avez fait. Non, mais que, vous voyez, peut-être l'artiste prophète, voyant...
Mais non, je crois que c'est juste un hasard complètement fou. En tout cas, moi, ce qui a fait que j'ai voulu tourner autour de Notre-Dame, c'est que c'était un monument qui avait jamais été filmé dans un film, en fait, et qui avait jamais été au cœur d'une fiction, en tout cas comme monument d'architecture. Et c'est pour ça que j'ai choisi le parvis de Notre-Dame, parce que je pensais que c'était plausible de faire un réaménagement du parvis de Notre-Dame qui est pas très intéressant aujourd'hui. Et puis aussi de mettre Notre-Dame, qui est le symbole de Paris, comme un élément phare de la ville et qui pourrait forcément créer de la polémique si on construit quelque chose d'un peu contemporain, proche de Notre-Dame. Et d'autant plus si cette construction devient un peu phallique.
Maud Crayon, donc le personnage que vous jouez, architecte, mais vous avez été architecte, je crois, dans une vie antérieure.
Alors, j'ai fait des études d'architecture, oui, et c'est vrai que quand j'ai trouvé le métier de mon héroïne, c'est-à-dire architecte, parce que je voulais aussi parler de l'échec, de faire une comédie autour d'une femme qui doit reconstruire sa vie, c'est aussi une reconstruction personnelle. Je me suis souvenu que j'avais fait des études d'architecture et que l'architecture et le cinéma ont quand même pas mal de points communs, et ça m'amusait de faire un peu ce parallèle entre...
Qu'est-ce qu'il y a justement comme point commun? Comment vous en êtes passé à la fois donc de l'architecture au cinéma, Valérie Donzelli, et puis pourquoi avez-vous justement décidé de revenir à l'architecture par le biais de ce film, et donc cette femme qui réaménage, c'est un chantier énorme avec un budget colossal, cette esplanade devant Notre-Dame?
Parce qu'en fait, d'abord l'architecture et le cinéma, les points communs, c'est que c'est des métiers où l'art est lié à la technique, où il faut travailler avec la contrainte, où on a la tête de gros budgets, on doit gérer une équipe, enfin c'est vraiment... D'un coup, on est dans la lumière et puis plus rien du tout. Enfin, c'est des endroits où il y a vraiment beaucoup de choses semblables. Et puis, c'est aussi l'idée de mener à terme un projet et de devoir le maintenir coûte que coûte, de pas perdre confiance par rapport à ça. Parce que quand on fait du cinéma ou quand on fait de l'architecture, il y a toujours des gens pour donner leur avis, pour dire « mais non, on peut pas faire comme ça ». Et d'ailleurs, il y a eu un livre qui avait été fait sur l'esplanade de la Défense avec la Grande Arche, où le créateur de la Grande Arche s'était suicidé parce que son projet était tellement déformé et tellement pas ce qu'il voulait au départ qu'il a fini par en mourir, quoi. Donc c'est... Et quand on fait des films, on s'accroche à son film, on est là, mais non, on peut pas nous réduire ça parce que sinon on peut pas faire. Donc il faut sans arrêt réinventer les choses et tout ça. Et l'architecture, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut réussir à s'adapter et construire avec la contrainte.
Et on va entendre une scène du film. Alors c'est la scène du film où il est question donc de cette victoire. Vous entrez dans le bureau de la maire de Paris et celle-ci vous annonce que vous avez remporté ce concours. Vous êtes quelque peu surprise, Valérie Donzelli.
J'adore.
On adore. On adore.
Bon, Guénaud, c'est à vous.
Alors, le budget dont vous disposez pour ce magnifique projet est de 121 millions d'euros.
121 millions.
Oui, oui. On a une rallonge de dernière minute.
Oui, petite rallonge de dernière minute.
Il est impératif de respecter la date de livraison. C'est prévu pour juin 2023. Hein. C'est important de tenir le calendrier avant les prochaines élections. C'est important. Bon, alors ne perdons pas de temps. Voici vos différents rendez-vous. Lundi, conférence sur le développement durable et les nouveaux matériaux. Mardi, rencontre avec les associations de riverains. Ils ont leur mot à dire, hein, c'est important. Mercredi, réunion avec les experts. Jeudi, avec le comité de soutien de réhabilitation des monuments historiques. Vous me suivez?
Ça va, vous voulez un petit verre d'eau?
Un petit verre d'eau?
Je veux bien un petit verre d'eau, oui.
Un extrait de votre film, Valérie Donzelli Notre-Dame, c'est une scène particulièrement drôle dans ce film, qui est plein de charme et d'esprit. Il y a Philippe Catherine qui est excellent, donc conseiller de la maire de Paris. Vous dites qu'il est pompidolien, il est effectivement tout à fait déplacé, donc à sa place dans cette scène. Vous n'allez pas très bien, peut-être parce qu'il y a autre chose, on peut le dire. Pourquoi vous aviez besoin d'un verre d'eau? Pourquoi vous ne vous sentiez pas très bien aussi?
Parce qu'en fait, elle a gagné ce concours sur une imposture puisqu'elle ne l'a pas présentée. Donc en fait, quand elle se retrouve dans ce bureau et qu'on lui donne toutes les choses qu'elle doit faire, elle n'a pas du tout les épaules et elle se dit « mais qu'est-ce que je fais? Je dis la vérité ou pas ?» Puis finalement, elle préfère la taire en se disant que c'est peut-être l'opportunité de sa vie et voilà.
Et finalement, cette femme est le jouet, la marionnette d'un certain nombre d'événements qui lui échappent, puisque vous avez beaucoup de mal, Valérie Donzelli, dans ce film, à maîtriser votre existence professionnelle et puis aussi un peu votre existence sentimentale.
Oui, d'ailleurs, quand vous avez parlé de mal, j'ai cru que vous parliez des hommes. De mal dans le sens mal.
C'est-à-dire, en fait, vous en avez deux, ce qui fait, du point de vue de ce film, un de trop. Oui. Il y en a un qui
revient.
Devrait revenir et l'autre qui ne veut pas s'en aller.
Oui, c'est. Alors, le film raconte aussi la difficulté à se séparer. Enfin, en gros, la difficulté à accepter de perdre des choses pour en gagner d'autres, quoi. Et plus on avance dans la vie et plus il faut faire des choix. C'est compliqué de rester vertical, de rester debout et de continuer de construire quand on a multitude de petites vies. Déjà, on a l'impression d'avoir déjà eu plein de vies et il faut continuer d'avancer et de faire un peu le ménage. Et,
mais alors, pourquoi n'arrivez-vous pas à maîtriser votre existence dans ce film, Valérie Donzelli?
Mais parce que je crois que c'est très difficile de le personnage de Maud Crayon, c'est un personnage qui a un petit peu, qui a du mal à joindre les deux bouts, qui vient de la classe moyenne plus, qui habite à Paris, qui a des enfants, qui gère tout. Et puis, la relation avec le père de ses enfants, c'est aussi une relation compliquée parce qu'il sait pas trop où aller. Et pourquoi il sait pas trop où aller? Parce que, c'est cher d'habiter à Paris. Enfin, c'est tout ça, en fait. Le film raconte vraiment, j'avais voulu raconter Paris tel qu'il était. Enfin, je trouvais qu'il y avait un avant et un après 2015. Et je trouve que Paris s'est enfoncé.
Qu'est-ce qui s'est passé en 2015?
Il y a eu les attentats, en fait, qui font que les gens, Paris a basculé dans une ambiance beaucoup plus traumatisante, sombre, anxiogène, où d'un coup, on nous a fouillés pour entrer au musée. Enfin, et puis après, il y a eu la crise qui a fait que s'accroître avec le logement, où c'est devenu impossible de se loger, les Airbnb, enfin, l'ubérisation, la précarité, le travail qui est plus protégé. Enfin, bon, tout ça fait que c'était un peu des toiles de fond. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup l'extrait que vous avez présenté parce qu'on entend les sirènes de police et depuis 2015, le son de la ville a changé. Et moi, c'est ça qui m'a complètement frappée, c'est qu'on entend tout le temps des sirènes de police. On a vraiment l'impression qu'il y a une catastrophe qui arrive toutes les deux secondes. Alors en ce moment, c'est particulier. Mais vraiment, c'est ça qui m'a marquée, c'est que le visage de Paris a changé et qu'aujourd'hui, les gens vivent dehors. Il y a toute une population qui vit dehors et on est complètement habitué à ça et c'est juste terrifiant.
Mais il y a en tout cas un thème assez donzélien, Valérie Donzelli, dans ce film, c'est l'idée que finalement on n'est pas maître de son existence.
Oui, j'ai l'impression que on peut l'être aussi, mais qu'il y a, enfin, disons qu'il y a une part de choses.
Vous l'êtes pas du tout dans ce film.
Oui, mais à la fin, elle le devient. Donc c'est aussi comment apprendre à être maître de son existence et surtout d'arrêter d'être dans l'imposture de sa propre vie aussi.
L'imposture ou faire des choses qui vous échappent, puisque là aussi, même un psychanalyste fatigué aurait pu, si vous lui aviez transmis votre projet avant de le remporter, ce projet donc de réfection de l'esplanade devant Notre-Dame, eh bien, il a un édifice, disons, qui est tubulaire, qui peut ressembler à certaines formes que les psychanalystes affectionnent lorsqu'il s'agit d'en interpréter l'existence. Et donc, vous mettez dans une situation qui est assez périlleuse, Valérie Donzelli.
Oui, mais d'ailleurs, au départ, le projet n'est pas ça. Le projet, c'est une aire de jeu Et donc c'était tout l'intérêt de faire cette maquette et de la construire avec, d'ailleurs c'est un artiste qui s'appelle Arthur Hoffner qui a fait la maquette, qui est designer et qui fait des fontaines aussi, et donc l'idée c'était de faire un projet qui puisse être une aire de jeu et qui puisse se déformer progressivement pour devenir une espèce d'énorme phallus comme ça qui serait en front de notre, enfin devant Notre-Dame, et ça c'est le projet qui se déforme parce qu'elle n'arrive pas à maîtriser les choses face aux ingénieurs structures qui lui disent mais non, il faut ça va pas tenir, il faut grossir, mais si on fait une station de métro il en faudra deux parce que là il y a trop de monde, et donc elle se laisse complètement emporter et elle n'arrive pas à arrêter en fait la catastrophe, et c'est elle qui va la subir, cette catastrophe de plein fouet.
Et on songe aux artistes qui ont fait polémique, à Buren qui est explicitement cité dans le film avec ses colonnes. Quel rapprochement et quel est votre regard, Valérie Donzelli, sur le travail de Buren et les polémiques qui ont suivi ces fameuses colonnes?
Alors, Buren, j'ai une affection particulière pour lui parce que c'est le Palais Royal et les colonnes de Buren, c'est un des premiers endroits que j'ai étudié en architecture et c'est là où j'ai tourné mon premier court-métrage, et il m'avait gentiment donné l'autorisation de filmer ces colonnes. J'avais pas d'argent, j'avais dit que c'était pour un film d'école alors que j'ai pas fait d'école, enfin, j'étais autoproduite pour ce film, et c'est vraiment un endroit que j'adore parce que c'est de devenu vraiment à la fois une aire de jeu, justement. Moi, j'habite pas très loin, donc les gens prennent la pause, montent sur les colonnes. Enfin, comment ils se réapproprient l'espace, c'est ça qui est magnifique aussi, c'est de voir comment les gens se réapproprient l'espace de ces colonnes de Buren, qui au départ était quand même un parking, et quand ça a été construit, ça a fait polémique au point qu'ils voulaient raser le chantier, en fait. C'est-à-dire que ça, ils avaient commencé le travail, on le voit dans le film, et puis les gens trouvaient ça tellement laid. Enfin, il y a tout un truc politique autour aussi, parce que je crois qu'on changeait justement de premier ministre à l'époque et tout, et donc les gens voulaient voter, les riverains ont vachement de poids en fait dans l'urbanisme et dans les choix qui sont faits sur les projets, et les gens voulaient raser le projet de Buren, et il a dit mais on peut pas juger d'une œuvre tant qu'elle n'est pas achevée, et ça a fait jurisprudence, et c'est maintenant je crois qu'on peut plus le faire.
Alors quel regard portez-vous sur ces polémiques liées à ce que contiennent les œuvres artistiques, certaines œuvres artistiques? Il y en a d'autres qui sont liées au caractère ou à la vie de l'artiste. Je parle uniquement de celles qui font scandale parce que leur contenu dérange. Valérie Donzelli.
Ben, c'est compliqué parce que, en fait, c'est aussi ce qu'on projette sur les choses. Enfin, mais moi, j'ai l'impression que ce qui est compliqué, c'est de juger qu'il n'y a pas de vérité de l'œuvre, en fait. C'est-à-dire que la façon dont les œuvres s'inscrivent dans le temps aussi font qu'elles deviennent leur identité. Elle devient aussi avec le temps. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais par exemple, non, mais quand on voit que la Tour Eiffel, ça a été un sujet de polémique.
La maire de Paris le dit d'ailleurs
dans notre
film. Le dit
dans sa lettre et tout ça.
Le projet de Maud Crayon, votre personnage Valérie Donzelli, peut susciter quelques polémiques, mais n'oubliez pas que la Tour Eiffel, elle en a suscité beaucoup, et c'est ainsi qu'elle défend votre projet.
Oui, parce que à l'époque, c'était sa grandeur qui choquait les gens. On disait mais vous êtes complètement fous, vous allez détruire, vous saccagez la ville, quoi. Parce qu'à l'époque, Paris, c'était une ville assez basse, il n'y avait pas d'immeubles modernes et tout ça. Donc d'un coup, une tour de 300 mètres de haut dans Paris, c'était complètement invraisemblable. En plus, enfin, une espèce de ferraille comme ça, les gens trouvaient ça atroce. Et aujourd'hui, c'est l'emblème de Paris. Donc c'est très difficile, en fait, d'avoir un regard porté sur une critique du présent, en fait. C'est-à-dire que ça ne dit pas la vérité d'une œuvre, qu'elle soit encensée ou pas. Et je pense que c'est un peu insoluble comme problème.
Dans votre film, il est aussi question de charge mentale, puisque cette mère de deux enfants est une mère absolument débordée, et son ex est absolument défaillant, il ne s'occupe de rien, et non seulement il ne s'occupe de rien, mais il vient déranger votre existence, qui a déjà beaucoup de mal, Valérie Donzelli, à être rangée. C'est une sorte de revendication féministe.
Oui, alors la question de la charge mentale, quand j'écrivais le scénario, justement, les mots n'avaient pas été posés sur cette fameuse question de la charge mentale. Mais c'est aussi montrer les limites de ce système où Maud, elle fonctionne aussi toute seule, c'est-à-dire qu'elle ne le prend pas non plus en compte. Et elle ne le prend pas en compte parce que je pense qu'elle a du mal à avoir le dialogue nécessaire, quoi, et arriver à savoir exactement ce qu'elle veut. Et c'est peut-être qu'elle n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut parce qu'elle est prise dans cette espèce de tourbillon un peu d'organisation entre son travail, ses enfants, etc. Mais mais c'était vraiment aussi de montrer les limites de ce système et que la relation, elle se fait à deux et qu'il faut réussir à partager les tâches aussi.
C'est compliqué d'être une femme dans le foyer que vous filmez, Valérie Donzelli. Et puis aussi au travail, on va écouter un second extrait de Notre-Dame, votre film.
Crayon !
C'est à cette heure-là que t'arrives. C'est la dernière fois. À 9h, c'est pas 9h15. Et puis pour ton contrat, on verra ça le mois prochain.
Ah bon, parce que tu m'avais dit que...
Oui, je sais ce que je t'avais dit, mais c'est comme ça, voilà. Avec l'URSSAF, machin et tout ça, là, c'est mieux comme ça. Ah. Ok ? D'ailleurs, à ce propos, c'en est où l'air de jeu d'Aubervilliers ?
Ah bah, j'ai fini la maquette.
Et les plans ? Demain matin, sur mon bureau, on dépose jeudi.
Ok, je m'y mets.
Il y en a d'autres comme ça ? Le parvis de Notre-Dame, c'est chez vous, pas à l'agence. Je vous paye pas pour vous faire une place au soleil. Tout le monde au boulot, là !
Quel con.
Oh, mais c'est pas des conditions de travail.
Un extrait de Notre-Dame, votre film, Valérie Donzelli. Disons que la manière dont vous filmez le monde du travail ne donne pas vraiment envie de travailler.
Oui, bah ça c'est vraiment le patron qui ne voit que son profit et son intérêt personnel, c'est vraiment...
Ce patron-là qui est par ailleurs, voilà, qui est plutôt sexiste, on peut dire les choses ainsi. Et ça c'est l'autre volet du regard féminin que vous portez sur le monde du travail, Valérie Donzelli.
Oui, ben l'architecture, c'est un endroit où il y a beaucoup d'hommes et il y a très peu d'architectes femmes d'ailleurs qui remportent des grands concours et tout ça. Mais là, c'était surtout de montrer aussi comment elle était exploitée, quoi, et qu'elle préfère cette situation plutôt que pas de travail du tout. Donc elle est un peu prise au piège de ce truc-là et elle peut pas trop s'en défaire. Et c'est vraiment je pense que le personnage de Greg, interprété par Samir Gesmi, c'est le personnage le plus méchant du film.
Il n'est pas du tout sympathique. Alors, il y a des sujets qui sont des sujets sérieux et que vous abordez, mais le tout est extrêmement fantaisiste. C'est une sorte de fable, de conte moderne. Il y a vraiment une inscription de votre film Notre-Dame, Valérie Donzelli, dans une veine fantaisiste du cinéma français, n'est-ce pas ?
Oui, en tout cas, c'est vrai que je me suis naturellement dirigée vers la comédie quand j'ai commencé à faire des films, et aussi la comédie plus burlesque, parce que je trouve que ça apporte une pudeur et une distance juste sur les choses qu'on raconte, mais c'est comme ça que j'ai imaginé faire des films depuis le départ.
Avec une fantaisie.
Oui, peut-être, oui. Alors, fantaisie, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas...
Fantaisie, ça veut dire que les films, vos films, Valérie Donzelli, n'ont pas vocation à être réalistes.
Oui. C'est pas naturaliste et c'est pas réaliste, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit incarné.
Et ça veut dire aussi que tout est permis et dès lors qu'il y a une histoire qui vous embarque.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je trouve que le cinéma nous permet cette chose extraordinaire, c'est de pouvoir faire croire à l'invraisemblable et que les outils du cinéma sont très vastes et très variés et j'aime bien m'essayer. En tout cas, dans ce film-là, j'ai vraiment essayé de faire du cinéma aussi avec tout ce que le cinéma nous apporte, à la fois de liberté dans la fiction, dans la forme, dans
le fait de jouer, de chanter, parce que oui. Il y a aussi un clin d'œil à la comédie musicale. Il y a une chanson, Plus Jamais.
Oui.
Vous l'avez écrite, cette chanson. Comment l'avez-vous écrite d'ailleurs, Valérie Donzelli? À quel moment l'avez-vous écrite?
Ça s'est improvisé un peu pendant le tournage. En général, j'écris souvent les chansons de mes films et c'est souvent des choses qui me viennent comme ça très rapidement. Et là, je l'ai écrite, j'ai senti qu'il fallait une chanson pour ce moment-là, donc elle s'est écrite un peu entre la poire et le dessert, quoi, on va dire.
Mais en tout cas.
Mais elle a été réécrite après avec Ulysse Kovensky.
Bon, alors ça, je ne sais pas comment celle-ci a été faite et refaite, mais en tout cas, on voit qu'il y a, disons, des clins d'œil à la fois à Jacques Tati et puis aussi aux comédies musicales à la française.
Oui, un peu, oui. C'est le cinéma que j'affectionne, en tout cas.
Un cinéma, en tout cas, qui met de bonne humeur. Vous vouliez traiter de sujets qui sont des sujets assez graves avec une forme de joie, parce que c'est un film joyeux, Valérie Donzelli.
Oui, c'est ce que je voulais faire. Un film joyeux, exactement.
Voilà, je vais vous présenter mes trois joyeux drills qui vont suivre. Aurélien Bélanger, Hervé Gardette et Mathilde Serrel. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Hervé, de quoi allez-vous nous parler ?
De Course en sac.
pourquoi pas, et Mathilde Sérel.
De 2019, une année polémique malheureusement, moins érotique.
Alors justement, on va en reparler avec Valérie Doselli et la manière dont elle a filmé la polémique dans son film. Et enfin, Aurélien Bélanger.
Le grand Bill Bocquet du dérèglement climatique.
Dans quelques instants.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Chaque samedi sur France Culture à 9h05, réplique, Alain Finkielkraut.
Pourquoi réplique? Parce que, selon les mots de Fontenelle, on s'accoutume trop dans la solitude à ne penser que comme soi. Deux invités chaque semaine nous aident à sortir de nous-mêmes et à déchiffrer le présent.
Réplique, tous les samedis à 9h05 et sur franceculture.fr.
8h44 sur France Culture, Hervé Gardette, vous allez évoquer vos courses en sac, c'est votre dernière chronique avant les vacances, l'occasion de revenir sur votre tentative de réduire vos déchets, pas si simple.
J'ai eu beau chercher, Guillaume, sur Internet, aucune trace de l'inventeur du sac à pain en papier. Il mériterait pourtant, à l'égal d'un Steve Jobs, qu'on lui consacre un chapitre dans l'encyclopédie mondiale du marketing, car voilà un individu qui aura réussi à imposer dans toutes les boulangeries un emballage parfaitement inutile. D'autant plus inutile que la fine couche de farine qui recouvre votre baguette n'a pas le moindre intérêt gustatif ni d'effet sur sa conservation. C'est pour faire joli, paraît-il, auquel cas c'est raté. Alors ayant fait le constat de son caractère superfétatoire et soucieux d'améliorer mon score au défi zéro déchet de la ville de Paris, j'ai donc entrepris de me passer de cet emballage. Je n'imaginais pas que ce serait aussi compliqué. C'est qu'il faut placer sa requête « Je n'ai pas besoin de sac » dans l'immédiate continuité de sa commande « Une tradition, s'il vous plaît ». Une hésitation, un court silence et c'est déjà trop tard. La boulangère, j'ai le plus souvent affaire à des boulangères, a déjà dégainé son sac. Comble de l'absurdité, alors que j'avais correctement enchaîné requête et commande, je vis la vendeuse se saisir malgré tout d'un emballage en papier, comprendre son erreur, suspendre son geste, avant de chiffonner le sac et le jeter à la poubelle. Au marché, le dimanche matin, je complique l'exercice avec souvent le même insuccès. J'ai dans mon caddie des sacs en papier déjà utilisés et que je tends à celui ou celle qui va me servir mes légumes et mes fruits. Parenthèse, j'ai longtemps hésité à le faire, ne voulant passer ni pour un radin ni pour une personne à l'hygiène douteuse. L'audace l'ayant emporté sur les convenances, je me suis jeté à l'eau il y a quelques semaines et ça se passe à peu près toujours de la même manière. Je tends mes sacs, une petite dizaine. Le maraîcher les prend, glisse une poignée d'échalotes dans un premier, une livre de charlotte dans un deuxième, qui sera aussi le second. Invariablement, il oublie les autres et finit par m'en donner des neufs. Je n'ai aucune illusion sur le sort réservé à ceux que j'ai tenté de sauver de la déchéance. Alors vous allez me dire pourquoi s'enquiquiner à prolonger la vie d'un emballage qui pèse aussi peu dans nos déchets et qui se recycle si bien à tel point qu'on a presque l'impression de faire une bonne action lorsqu'on jette le papier dans sa poubelle jaune. Eh bien parce que le sac en papier n'est pas aussi écologique qu'il s'en donne l'air. Il faut de la matière première, du bois pour le fabriquer. Il faut de l'eau, beaucoup d'eau pour le transformer. J'ai lu dans plusieurs articles qu'un sac en papier en nécessitait 3 fois plus qu'un sac en plastique. Il faut le transporter et le papier occupe de gros volumes. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, vient d'ailleurs de publier un avis sur l'impact environnemental des sacs d'emballage des fruits et légumes. Elle recommande notamment de les rendre payants afin de favoriser leur réutilisation. Ce qui nous ramène à ma propre expérience. Dans le magasin de vrac où je me rends chaque semaine, entre les grains de café de Colombie et les céréales importées d'Italie, car oui, le vrac n'est pas toujours très local, il y a des croquettes pour chats, au bœuf ou au poulet. J'en ai acheté pour le mien qui a l'air de les apprécier. Ah, non, c'est très précis,
mais, non, non, mais
c'est ma vie. Hein,
il faut être précis, Hervé.
Donc j'en ai acheté pour mon chat qui a l'air de les apprécier. Ce qui montre bien au passage, Guillaume, que les chats, contrairement à leur réputation, n'ont ni délicatesse ni finesse d'odorat, sans quoi ils ne se jetteraient pas sur une nourriture qui sent aussi mauvais.
Les odeurs sont peut-être relatives, vous savez, Hervé. Je dis ça sans...
Ils comprendraient qu'ils ne peuvent pas manger un bœuf, surtout.
Peut-être aussi.
L'odeur, justement, ce fut mon erreur. Quel sac avais-je utilisé pour les croquettes? Lequel était contaminé? Je n'ai rien contre les mélanges, mais j'ai quand même un doute sur l'harmonie olfactive née de la rencontre entre une croquette et un cornflake. Il fallait donc prendre une décision. Ma collection de sacs en papier a fini à la poubelle.
C'est triste, merci Hervé, Valérie Doselli. Alors, il n'y a pas à proprement parler de soucis écologiques dans votre film. Je ne sais pas si vous faites vos courses avec des sacs papier ou si vous souhaitez louer les mérites de l'inventeur du sac à pain en papier.
Non mais... Non, mais c'est vrai qu'on est complètement perdu. Moi, je vais faire mes courses. J'ai des cabas en tissu, puis je mets des trucs dedans et tout ça. Mais on est complètement perdu.
Vous aussi, vous achetez du vrac comme Hervé?
Non, alors je n'achète pas de vrac.
Je vous donnerai des adresses, oui.
Non, j'achète pas de vrac, parce que j'ai pas de magasin de vrac à côté de chez moi.
Enfin, on va vous donner quelques adresses.
Mais du coup, on les met dans quoi, les trucs en vrac, si on peut pas les mettre dans des...
Hervé, dans des bocaux en verre.
Ah, mais ça, j'en ai. C'est lourd, du coup, il faut travailler ces bocaux en verre dans les magasins et tout.
Oui, ou alors vous pouvez d'abord le vrac dans du sac. Oui, non, c'est compliqué, en fait.
Ça nécessite une certaine organisation. Tout autre chose avec vous, Mathilde Serrel. Dans votre théorie culturelle, vous vous intéressez à ce que les polémiques font à la langue.
2019, année polémique, aurait pu chanter Gainsbourg aujourd'hui. C'est moins sexy, il faut le reconnaître, mais plus fidèle aux zeitgeists, j'ai nommé l'esprit du temps. Comme nous n'allions pas nous quitter comme ça, la veille des vacances de Noël, a surgi une nouvelle controverse culturelle, ultime déclinaison de la tendance 2019, le débat œuvre homme. Au moment où Les Misérables étaient annoncés en présélection pour l'Oscar du meilleur film étranger, le passé judiciaire de son réalisateur Lajli refaisait surface. Comme quoi, il n'aura pas fallu attendre que le film entame officiellement sa campagne des Oscars pour voir apparaître de notre côté de l'Atlantique une exhumation des précédents méfaits de son auteur. C'est désormais un trait général de l'époque dans une diversité de cas dont la comparaison me paraît ici hasardeuse. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la langue et ma théorie c'est que cette séquence révèle ce qui travaille et s'installe dans notre langage. Pour vous résumer néanmoins la situation, un article du site Causeur, repris par Valeurs Actuelles, a ressorti la condamnation de Lajli en 2012 à la suite d'une expédition punitive. L'article évoquait 3 ans de prison pour tentative de meurtre. Il s'agissait en réalité de 2 ans, dont un ferme, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le 7e jour. Le réalisateur porte désormais plainte contre Causeur et Valeurs Actuelles pour diffamation et diffamation raciale, car il est question de la manière dont l'affaire a été présentée. Ayant été attrapé, tabassé et séquestré tout de même dans un coffre de voiture, la victime aurait subi, selon Causeur et Valeurs Actuelles, une application de la loi islamique, la charia. Autrement dit, mais sans que cela soit argumenté, une punition pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage avec la sœur du meneur de cette agression. Or, dans les comptes rendus à l'époque des faits, il n'a jamais été question d'un lien avec la religion musulmane. L'idée, qui se diffuse alors à travers cette supposée application de la charia dans le passé de Lajli, enfant des quartiers de Montfermeil en Seine-Saint-Denis, c'est plus largement celle de sa possible complaisance avec les islamistes extrémistes. Et puis, par ricochet, celle de la complaisance ou de l'aveuglement de certains médias à ce sujet. Le réalisateur chouchou de la presse et de l'idéologie diversitaire a un passé très lourd, peut-on lire dans Causeur. Le piège rhétorique est prêt. Ceux et celles qui sont prêts à questionner l'étanchéité de la frontière entre l'œuvre et l'homme n'y sont pas prêts dans tous les cas. À mon avis, fort heureusement, car ces cas sont aussi distincts que particuliers et que toutes les controverses de ce type nous ont amenés à des réflexions différentes. Toujours est-il que cette expression d'idéologie diversitaire a retenu mon attention. Elle révèle ce que le dernier numéro de la revue Esprit, consacré au langage, décrit comme une réduction de la langue à la fonction de signal. Cette formule d'idéologie diversitaire a une fonction non pas descriptive, mais efficiente. Distiller une notion duplice où s'efface partiellement la langue commune. Car les mots idéologie diversitaire ne signifient pas, ils insinuent. Au vrai, à chacune de ces polémiques apparaissent ce genre de mots qui perdent leur enracinement pour être utilisés comme des petites pièces à faire tourner la machine. C'est ce que souligne l'un des articles de la revue Esprit sur l'usure de la langue. Et c'est bien ce que nous devrions garder à l'esprit, justement, lorsque se présente la machine à polémique et les petites pièces qui la font tourner.
Merci Mathilde Serrel. Valérie Donzelli, dans votre film Notre-Dame, il est question d'une polémique. C'est une polémique qui est liée au projet de l'architecte que vous incarnez, Maud Crayon. Là, il s'agit d'autre chose, mais c'est un sujet qui nous a occupés durant toute cette année, les rapports qu'il y a entre un artiste, sa vie, son œuvre, une réaction.
Là, dans le cas de Lajli, je trouve ça juste dégoûtant, parce que de toute façon, ça fait référence à une histoire passée, donc on a le droit quand même d'avoir bah, eu, enfin, c'est sa vie privée, en fait. Enfin, je trouve ça un peu étrange. Après, les autres polémiques qu'il y a eu, ça, c'est différent. C'est vraiment entre...
On peut penser, par exemple, à...
Dans votre film, il y a le cirque, en fait. Le cirque médiatique qui entoure les polémiques, qui résonne. Oui. Que ce soit l'affaire Buren qui est citée, mais il y a aussi presque une référence à Jeff Koons. Enfin, on voit la façon dont... Sûr, oui. Donc, il y a une résonance et un emballement du langage.
Oui, mais... Je sais pas. En fait, que c'est par rapport à oui, c'est qu'aujourd'hui la polémique est quelque chose qui dégaine très vite en fait. Et en plus, avec les gens s'expriment un peu n'importe comment. Enfin, c'est un peu la parole libre qui en fait condamne aussi en deux minutes. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais moi, dans le film, surtout, ce qui m'amusait, c'était de montrer comment une chose devient d'un coup une espèce d'avalanche quoi médiatique et que la première personne qui est prise au piège, c'est surtout la maire de Paris qui doit se défaire comme ça de tous ces journalistes qui lui posent des questions. Et elle dit cette phrase en anglais où elle dit peanuts, enfin moi je parle pas l'anglais mais celle qui le dit très bien, la proportion devient de l'art, ça n'est plus oui, out of proportion, peanuts is not peanuts, it's art, un truc comme ça. Et donc c'est vrai, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est tout est une question de proportion dans l'art.
L'autre polémique où était impliqué un cinéaste, c'est évidemment Polanski. Et avez-vous eu une réaction à ce moment-là?
Je n'ai pas été agressée par Polanski, je tiens à le dire, ni par aucun metteur en scène. Non, mais bien sûr qu'on a des réactions. Enfin, en plus, on ne connaît pas la vérité des choses et tout, donc c'est très compliqué, c'est extrêmement violent. La vérité, c'est qu'on est complètement perdu, quoi. Moi, je suis assez choquée de voir comment le tribunal se fait comme ça. Enfin, c'est des sujets qui sont quand même compliqués. Et en tout cas, le rapport d'un metteur en scène à un acteur, ou d'une metteur en scène à un acteur, ou d'une metteur en scène à une actrice, c'est le désir, en fait, qui les lie. Et ce désir, il passe par la caméra et par le plateau de cinéma. Et en dehors de ça, ben, on est un peu en dehors des clous. Donc, je ne sais pas quel est le rapport de chacun avec ça. Moi, je sais que je désire mes acteurs très fort. J'ai envie de les filmer, j'ai envie de les toucher. Ça. Et que tout ça passe par le plateau, qui est le cadre, et la caméra.
8h55 sur France Culture. Aurélien Bélanger, votre conclusion, je vous prie.
Ma fille a trouvé dans l'une des innombrables boîtes à bazar de l'appartement une sorte de bilboquet monstrueux en plastique, le genre de choses qu'on gagne dans les pochettes surprises des boulangeries. Il est à la fois beaucoup trop simple, on peut réceptionner la bille dans plus de 4 compartiments, comme évidemment l'attraper de façon classique sur une pointe, et beaucoup trop difficile. Le plastique, trop léger et fade comme celui des Playmobil sur le point de se rompre, empêche toute résolution physique de l'énigme dans ce monde. Ma fille s'en est pourtant passionnément emparée et a passé presque une journée entière. Dans la temporalité d'un enfant de 3 ans, une journée entière, c'est au moins une saison pour un adulte de 40, à jouer avec, en vain, d'autant qu'elle le prenait apparemment, sans doute à cause de la finesse de sa ficelle en nylon, pour un yo-yo. Je la corrigeais chaque fois en rendant à l'objet approximatif son nom exact de bilboquet, et le plaisir qu'elle avait à m'entendre répéter bilboquet a presque résolu, en rodant l'objet à une joyeuse autosuffisance onomastique, cette énigme anthropologique que je m'étais souvent posée. Comment font les Inuits sur la banquise dans leur igloo pendant les longs hiver sans Netflix et sans bibliothèque pour supporter le passage du temps, avec pour seul jouet connu cette approximation frustre de notre glorieux bowling mécanique. Bon joueur de bilboquet moi-même, quand l'objet le permet, je connais bien sûr la satisfaction virile qu'on peut éprouver à sa manipulation, sans pour autant souscrire à l'hypothèse appauvrissante du fétichisme sexuel. Je préfère, à tout prendre, y voir une métaphore cosmologique en chambre sous la voûte du plus glacé des planétariums. Le trou symboliserait l'interminable hiver et la pique, le retour incertain, éblouissant, du soleil. Mais soudain, sur le petit sentier côtier du pays de Caux où je réfléchissais à la mélancolie des cosmologies esquimaudes, j'ai ressenti face à la mer, pour la première fois, que les choses ne se réemboîteraient peut-être plus jamais de mon vivant, que les cycles des marées eux-mêmes qui me découvraient la même épave chaque année en septembre étaient cassés pour toujours, et que le joli village où j'allais depuis 10 ans gisait peut-être déjà à ses côtés, comme la boule du bilboquet après un coup manqué. Je finirais peut-être par pleurer en réentendant un jour le mot yo-yo et ses nostalgiques promesses de régularité. impassible, ma fille élève avec sa classe de petite section deux escargots dans un terrarium. Son monde se déploie trop lentement pour la catastrophe climatique en cours et l'animal doit lui donner, à chaque fois qu'il sort ou qu'il rentre la tête, l'illusion d'une adéquation parfaite entre une espèce et son habitat, l'illusion d'un bilboquet vivant, autonome et inépuisable, la spirale de sa coquille comme équivalent en fautin d'une croissance infinie. Ainsi ai-je ressenti une certaine culpabilité en écrasant l'autre jour un escargot entier. Ce qui craqua soudain sous mon pied, c'était directement un cosmos entier, une possibilité unique de connaître la forme unique, glorieuse, asymétrique du monde. Je me serais, en cet instant de deuil, senti aussi ridicule à me comporter avec lui en être supérieur que je le serais à prétendre enseigner la tâtonnante physique des quarks à une civilisation extraterrestre avancée, et j'aurais alors compris, je crois, qu'on m'écrabouille innocemment. J'en étais là de mes considérations cosmologiques quand j'ai retrouvé mon fils, réussite inattendue d'une partie de bilboquet interespèce, avec un escargot dans la bouche, sur le tapis de mon salon, au troisième étage, à plus de 20 coquilles d'arrondissement de son biotope normal. Il avait dû tomber d'une salade, mais j'ai été assez ébahi de la faculté, toute enfantine ou toute humaine, que mon fils avait eue de faire apparaître un jardinet autour de lui, comme j'ai été surpris du regard anormalement compatissant qu'il a adressé l'autre jour à la visqueuse petite figurine de Jabba le Hutt de sa grande sœur. J'ai bien vu à ses yeux qu'il la regardait comme un égal, et je me suis finalement réjoui d'avoir mis à la disposition de mes enfants tout cet écosystème de plastique qui saurait leur faire efficacement oublier l'absence définitivement acquise de neige à Noël et mon absolue inaptitude à y faire quoi que ce soit, sinon à leur remettre la Reine des Neiges à la télé ou à leur raconter comment Luke Skywalker fit autrefois venir à lui, alors qu'il était pendu par les pieds, le sabre laser planté dans la glace de la planète Hoth, chef-d'œuvre définitif de l'art du bilboquet.
Merci Aurélien Bélanger, merci beaucoup Valérie Donzelli. Votre film Notre-Dame est sur les écrans, il faut aller le voir pour les fêtes. Et puis alors moi je vais vous offrir la revue de France Culture, papier, La fin du monde, non merci. Je ne sais pas si ça plaira à Hervé tout cela, mais en tout cas il y a beaucoup de choses à lire sur la collapsologie. Il y a aussi une interview du journaliste Thomas Piketty et une interview de la romancière Emma Becker qui a obtenu le prix du roman France Culture Télérama. Voilà, je vous l'offre.
Ah, merci
Valérie,
beaucoup.
Vous allez pouvoir lire ça pendant les vacances. Merci également à toute l'équipe des matins. Pauline Chanu, Elodie Piel, Manuel Guizou, Léa Capuano, Louison Carouet, David Jacobeviez, Nicolas Paumet, Swad Boukorsa, Hervé Gardette. Vous allez lundi vous lever tôt puisque c'est vous qui allez présenter les matins. Vous savez déjà
serais-je
ce que vous
digne
ferez
de cette charge
lundi. Mais oui, largement. Surtout si vous abandonnez cette gourde orange. Prenez une autre couleur. Prenez par exemple un thermos en métal. Vous savez de quoi vous allez parler lundi ?
On va parler de travail sans doute.
Voilà, du travail, ça vous intéressera Valérie Donzelli. 9h sur France Culture.